18h-19h, Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce 18-20 qui démarre sous le soleil. Et pour certains d'entre vous, petits vénards, déjà en vacances, mais nous sommes avec vous où que vous soyez. Au menu de ce samedi, 2 heures d'info avec du sport, évidemment le tennis à Wimbledon et le tour qui vient de démarrer, et donc le club tour tout à l'heure avec l'ami Axel May qu'on retrouvera à 19h. Et puis des dossiers. Cette nuit à Perpignan, une femme de 32 ans a été tuée à coups de couteau par son compagnon devant ses 3 enfants. C'est la 74e victime depuis le début de l'année. Qu'attend-on pour réagir, pour prendre les mesures qui s'imposent? C'est le cri de 150 sénateurs et sénatrices qui signent une tribune dans l'IB au titre volontairement provocateur, féminicide, où est passée la grande cause du quinquennat? Je recevrai l'une des co-signataires, Esther Bambassa, sénatrice, membre d'Europe Écologie Les Verts. Jeudi, l'Assemblée nationale a voté l'obligation pour les plateformes Internet de retirer dans les 24 heures les contenus haineux signalés par des utilisateurs, sous peine d'une condamnation à des amendes allant jusqu'à 1,25 million d'euros. Sauf que beaucoup de professionnels s'élèvent contre cette mesure qu'ils approuvent sur le fond, notamment l'ASIC, l'Association des services Internet communautaires qui regroupe notamment Facebook, Twitter, Netflix ou encore Airbnb, excusez du peu. Je recevrai son président, Giuseppe De Martino. Il dénonce un texte inefficace et réclame de revenir au pouvoir des juges. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Et n'hésitez pas à réagir à l'actu en publiant un petit commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 18h, merci de nous écouter. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 18h.
Agir pour protéger les femmes victimes de violences, un rassemblement se tient en ce moment dans le cœur de Paris. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ancien compagnon. Beaucoup de monde sur les routes des vacances, des bouchons en direction du sud, un peu moins vers la Bretagne et partout le même plaisir d'être en congé. Après la grève des correcteurs du bac, les professeurs qui font passer les oraux menacent de surnoter les candidats. Une situation qui alarme les associations de parents d'élèves. Les deux violents séismes qui ont secoué en 2 jours la Californie sont-ils annonciateurs du Big One tant redouté? On a posé la question à un sismologue. Et puis la première étape du Tour de France remportée à Bruxelles cet après-midi par le Néerlandais Mike Tennyson.
Europe 1. Et ce week-end marque la première vague de départ en vacances.
À direction le soleil, vous êtes nombreux à partir par le train. Ce week-end, la SNCF attend 1,5 million de voyageurs, mais également à prendre la route des vacances. Stéphane Frangy, vous vous trouvez à Lançon de Provence pour Europe 1 sur la 7 et la journée a été très très longue.
Oui, voilà, journée pénible, mais qui se termine néanmoins avec le sourire pour beaucoup. C'est le cas, écoutez, de Mustapha et de sa famille.
Entre Valence et Orange, où c'était bouché en fait.
Ouais, c'était très compliqué. En plus avec la chaleur et tout, c'était pas facile. Ouais, une heure et demie. On était par choc contre par choc et des fois on restait 1 minute sans bouger. Et des fois ça avançait plus, on savait pas pourquoi. Là c'est bon, là on est arrivé. C'est pour ça on a pris notre temps, on a mangé tranquille. Ouais, ça fait du bien. Surtout aller se reposer, parce qu'on s'est levé, on a pris la route à 1h du matin.
Et voilà, bien sûr, ça va toujours mieux quand on sait l'arrivée toute proche, même s'il aura fallu lutter contre la chaleur, contre la fatigue pour ces vacanciers. Bien heureux de trouver ici des jets d'eau, des coussins de sieste géants à l'ombre des arbres. Mais le plus compliqué, tous les parents le savent, c'est de gérer l'impatience des enfants. Et la solution qui est proposée ici à Lançon de Provence, eh bien, elle tient dans un ring de boxe.
Boxe sociale, oui, ce qu'on appelle la savate. Pieds-poings, voilà, les fatigués, les détendent surtout. Ils sont épuisés par la voiture. Et donc ça est détend. Rouler 4 heures dans une voiture où c'est chaud, et ils sont plutôt énervés. Hein.
Voilà Sylvain, entraîneur de boxe française et des ados, qui repartent tout doux pour terminer la route. C'est appréciable.
Merci Stéphane Frangy. À Lançon de Provence, pour Europe 1, beaucoup de monde en direction du sud. Vous étiez un petit peu moins nombreux à vous rendre en Bretagne. Hélène Terzian, vous avez pris la route ce matin et vous avez déjà les pieds dans le sable.
Et oui Sophie, vous entendez peut-être les mouettes qui survolent ma tête. Vous ne pouvez malheureusement pas sentir la crème solaire qu'une maman est en train de tartiner sur sa petite fille juste à côté de moi. Mais vous pouvez imaginer la mer derrière moi. Vous l'aurez compris, je suis, oui, bien entourée de ces premiers vacanciers qui, comme Nolwenn, enfin, après un long trajet, peuvent profiter de ces premières sensations sur la plage.
Et là, je m'apprête à retirer mes chaussures et à enfin marcher pieds nus dans le sable après avoir passé un mois entier à Paris sans clim. Voilà, du coup, j'ai très hâte. Hop, je pose mon pied droit sur le sable et je sens le sable est moelleux, le sable est tiède et c'est vraiment fantastique. Du coup, j'ai l'impression de marcher dans un fondant au chocolat tiède. J'ai envie juste de courir, de mettre mon maillot de bain et de courir tout droit dans l'eau. C'est parti. Alors, les premières petites vaguelettes. Oh, en vrai, ça va. C'est bah, parfait. Après la canicule parisienne, il fallait absolument ça.
Voilà, c'est l'heure des premières baignades donc, et c'est aussi le moment des premiers plaisirs culinaires. Nicolas, accompagné de sa belle famille, peut enfin déguster ces plats qu'il mange seulement ici, en vacances à Saint-Malo.
On est venu en train, puis en voiture, et là enfin on est arrivé à Saint-Malo, et là, bah, soulagement quoi. En fait, on a été dans le restaurant juste à côté, là, on a mangé des moules marinières et une crêpe, mais super bonne quoi, meilleure crêpe de ma vie. Alors c'est la première crêpe des vacances, et, ça rappelle la Madeleine de Proust.
Voilà, Nicolas qui a déjà prévu demain de visiter le Mont-Saint-Michel.
Et merci Hélène Terzian sur la plage du Sillon à Saint-Malo. Alors pour ceux qui ont l'intention de partir demain, la journée est classée verte au niveau national. Ça risque de coincer toutefois en Bourgogne et Grand Est ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé recommande de quitter les grandes villes, en particulier Paris et Bordeaux, avant 9h du matin.
Il est 18h05, la suite du journal sur Europe 1. Sophie Tussaud, Philippe Bandel.
C'est un chiffre dramatique. Depuis le début de l'année, 74 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ancien conjoint.
Toute la semaine, des appels à des mesures concrètes pour lutter contre les féminicides et les violences faites aux femmes se sont succédés. Point d'orgue de cette mobilisation, un rassemblement en ce moment, place de la République à Paris, de femmes qui ont subi des violences ou de proches de victimes, avec un mot d'ordre, protégez-les, Jean-Jacques Herry.
Oui, exactement. Et cet après-midi, place de la République, il y a d'abord eu 74 secondes de silence en hommage aux 74 femmes tombées sous le coup d'un homme cette année. Écoutez ce silence. Les coups de maillet ont donc émaillé le début de cette manifestation. Et puis ensuite, il y a eu 74 secondes, mais cette fois-ci de colère lancée par Muriel Robin.
Il y a des mesures urgentes à prendre maintenant. Monsieur Castaner peut mobiliser tous les commissariats, tous les commissariats de police. Et puis il y a aussi des mesures à plus long terme, parce que les violences faites aux femmes, c'est une problématique sociétale. C'est pour ça qu'on demande un Grenelle des violences à la rentrée, avec tous les acteurs en présence, avec tous les ministres. Et on demande un vrai Grenelle, avec des groupes de travail, des négociations, que ça débouche sur un vrai plan.
Voilà, c'est Anne-Cécile Malfer de la Fondation des Femmes que vous venez d'entendre, et elle expliquait justement sa colère contre un gouvernement qui est un système pénal qui, selon eux, n'en fait pas assez. Et parmi les 2000 personnes présentes ici, il y avait aussi beaucoup d'hommes. J'ai rencontré Jacques, il se disait très concerné sur les violences contre les femmes. J'ai fini par ouvrir les yeux, dit-il.
Il m'arrive souvent d'avoir honte d'être un homme, en fait. Parce que si c'était le contraire, s'il y avait des hommes qui mouraient tous les 3 jours, on aurait déjà pris des mesures implacables. Et donc ça bouge, parce que pendant longtemps on a pensé que c'était que des problèmes individuels, et puis finalement l'amour passionnel, toutes ces conneries. Donc là on commence à arrêter de le faire, et les pouvoirs publics commencent à se dire qu'il faut peut-être faire quelque chose.
Voilà, la manifestation est maintenant en train de prendre fin, même si elle continue toujours autour de la statue, ici place de la République. Et je vous rappelle à nouveau la principale demande des militants et des associations présentes, c'est la tenue d'un Grenelle contre les violences faites aux femmes. Il devrait avoir lieu, ils espèrent qu'il aura lieu à la rentrée prochaine.
Merci Jean-Jacques Herry, place de la République pour Europe 1.
Et à ce propos, je recevrai à 18h15 la sénatrice Esther Bambassa, co-signataire d'une tribune choc dans Libération. Les oraux de rattrapage du bac menacés après la grève des correcteurs et la peur du Big One en Californie, on en parle dans un instant sur Europe 1.
Il est 18h08, la suite du journal sur Europe 1, c'est avec vous Sophie Tussaud et Philippe Vandel.
Les résultats du bac dévoilés hier ne sont toujours pas définitifs pour des milliers d'élèves.
Oui, vous le savez, il manque des notes. Des centaines de correcteurs étant en grève pour protester contre la réforme du bac voulue par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Pour les élèves qui sont en ballotage, les oraux de rattrapage vont commencer lundi. Et pour continuer à protester, certains professeurs menacent de surnoter les candidats pour qu'ils obtiennent tous le bac. Une situation qui alarme Rodrigo Arenas, le président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves.
Il faut arrêter de mettre les enfants spectateurs comme si on était dans un couple où les parents sont en train de se disputer et on attend la fin de la scène de ménage. Quoi. C'est inacceptable que l'école devienne ce théâtre vis-à-vis de nos enfants où on est en train de leur montrer que seul le rapport de force permet un dialogue dans ce pays. Ce qui n'est pas dans l'intérêt des élèves, c'est le signe qu'on est en train de donner, c'est que tout à coup un diplôme national serait entaché d'irrégularité et notamment de discrimination entre les enfants. En fait, il y a une vraie inégalité de traitement dans les faits. Et nous, les parents qui nous appellent appel parce que nos standards explosent. Ils nous disent très clairement qu'ils envisagent d'aller au tribunal administratif si leurs enfants n'ont pas eu le bac, alors que le copain de la famille d'à côté l'a obtenu dans des conditions qui sont différentes. Ça fait des mois que nous, en tant que parents, nous alertons sur le fait que ça va se radicaliser. Bon, maintenant, on y est et on n'arrive pas à en sortir. Donc, il faut que le chef de l'État s'en mêle.
Le président de la FCPE, Rodrigo Arenas, au micro européen de Pierre Herbulot.
La Californie sera-t-elle prochainement touchée par le Big One ?
Le Big One, c'est ce méga séisme de magnitude de plus de 8,5 potentiellement dévastateur qui pourrait toucher l'Ouest américain. Il survient tous les 150 à 200 ans dans la zone. Il est très redouté. Le spectre de cette catastrophe ressurgit après les deux séismes qui ont secoué la Californie en deux jours. Celui de ce matin a atteint une magnitude de 7,1. C'était le tremblement de terre le plus puissant depuis 20 ans. Pas de victimes, mais de gros dégâts. L'état d'urgence a été décrété. Alors, toute cette activité sismique est-elle annonciatrice de ce Big One ? Écoutez la réponse du sismologue Jean-Paul Montagnier.
En Californie, de façon très régulière, il y a des tremblements de terre qui atteignent pratiquement une magnitude de 8. Alors, une magnitude de 8, il faut voir que c'est énorme. C'est ce qu'on appelle un méga séisme. Et donc, ça veut dire que la faille peut se déplacer de plusieurs dizaines de mètres très rapidement et sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça, c'est ce qui s'était produit dans la région de Los Angeles, le long de la faille de San Andreas, il y a déjà près de 150 ans. Et on pense effectivement que le temps de récurrence entre deux séismes de cette nature est aussi entre 150 et 200 ans. Donc si vous voulez, les gens commencent à s'inquiéter parce qu'ils attendent le Big One. Mais alors je ne peux pas vous dire si ce Big One aura lieu demain ou dans 10 ans ou dans 20 ans, mais c'est clair aussi qu'il aura lieu un jour ou l'autre. Donc ça va provoquer forcément des dégâts extrêmement importants.
C'était l'analyse de Jean-Paul Montagnier, le sismologue, qui répondait à Chanel Petit pour Europe 1.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup Sophie.
Bonne fin de journée à l'écoute d'Europe 1, il est 18h12.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
23 départements en alerte orange jusqu'à demain matin, c'est bien ça?
Oui, alerte orange, orage, hein, tous les départements du Tarn au Haut-Rhin jusqu'en Savoie. Les orages qui ont été dès ce matin localement assez forts avec une forte activité électrique, des chutes de grêle et des rafales de vent sur ces régions. D'ailleurs, actuellement c'est plus calme, mais l'activité orageuse va progressivement se renforcer en cette fin de journée et première partie de nuit, surtout du Tarn à la Lozère et aux Alpes. Le risque le plus marqué se situe en milieu de nuit. Il va donc grêler de façon carabinée et le vent va souffler très fort.
Carabinée, et demain, comment cela va-t-il évoluer?
Alors, en début de matinée, on va retrouver des résidus orageux sur les Alpes et le Jura, et puis l'instabilité va se renforcer de nouveau en seconde partie de matinée, générant des orages du massif central vers le centre. Au nord de la Seine, on va connaître aussi un petit peu de pluie sur la Haute-Normandie, les Hauts-de-France et le nord de la Champagne-Ardenne. Ailleurs, la matinée va se dérouler sous un ciel alternant passages nuageux et belles éclaircies, hormis au sud de la Garonne où les entrées maritimes vont charger le ciel. Et puis l'après-midi, les orages vont persister du Limousin vers la Bourgogne, vers la Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais ils seront moins sérieux qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports, cette fois, c'est avec vous, Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Philippe.
Et le Tour de France, ça y est, c'est parti. Première étape aujourd'hui et donc premier maillot jaune.
Sur les épaules ou sur le dos de Mike Tennyson, on retrouve Axel May, l'un de nos envoyés spéciaux sur la route du Tour. Axel, une arrivée mouvementée et un vainqueur qui n'est pas forcément celui auquel on pensait.
Ah ça non, hein. Et à 26 ans, je peux déjà vous le dire, Mike Tennyson va faire demain la une de la presse aux Pays-Bas. Premier néerlandais à porter le maillot jaune depuis 1989. Tennyson, spécialiste des classiques, ancien champion du monde espoir de cyclocross, a surpris les meilleurs sprinteurs punchers. Il s'est imposé notamment devant Peter Sagan et Caleb Ewan pour remporter la première étape de ce Tour de France et donc revêtir le premier maillot jaune. Un final, vous l'avez dit, marqué, mouvementé, marqué par une chute à 1 km de l'arrivée. Chute provoquée par Dylan Groenewegen, le coéquipier de Tennyson chez Jumbo Visma, chute dans laquelle a été prise Geraint Thomas, le vainqueur sortant, mais son équipe ex-Sky Ineos s'est voulue rassurante. Thomas va bien. En revanche, à 18 km de l'arrivée, le néerlandais, le danois Jacob Fuglsang, est lui aussi tombé. Il a pu regagner le peloton, mais il était assez marqué, notamment au niveau de l'arcade. Donc on retiendra cette victoire de Mike Tennyson, premier maillot jaune de ce 106e Tour de France.
Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de la route du Tour de France depuis Bruxelles.
Bruxelles. Et Axel qu'on retrouvera à 19h. La Coupe du Monde de foot féminin. En attendant la finale demain, il y a la petite finale, ce qu'on appelle le match pour la troisième place.
Angleterre-Suède, la deuxième période a repris depuis une dizaine de minutes, un petit peu moins. Et c'est toujours la Suède qui mène 2-1. La finale, elle, aura lieu demain entre les États-Unis et les Pays-Bas. Avantage aux Américaines qui ont l'expérience pour elles et qui surtout ont bénéficié d'un jour de repos supplémentaire. Les Néerlandaises ne sont pas non plus nées de la dernière pluie. Après tout, elles sont championnes d'Europe et elles ont aussi un public nombreux, aussi nombreux que bruyant, veillé d'Arma Lyon avec notre envoyé spécial Cyril de la Morinerie.
Les Hollandaises ont réalisé le rêve des Françaises, atteindre la finale de la Coupe du Monde. Ce qui est remarquable, c'est surtout la vitesse à laquelle s'est développé le foot féminin aux Pays-Bas. Ce n'est que la deuxième participation de l'équipe orange à une Coupe du Monde. Les Hollandaises se sont révélées il y a 2 ans avec un titre européen. Depuis, l'équipe a peu changé. La stabilité, c'est le secret de leur réussite, explique l'attaquante Renate Johnson.
C'est un processus d'équipe. On joue depuis 3 ans ensemble et on joue de mieux en mieux. Je pense qu'on est une vraie équipe.
Et tout un symbole, mercredi soir, c'est Jackie Gronin qui a offert la qualification pour la finale. Elle porte le numéro 14. Comme le regrettait Johan Cruyff en son temps, le légendaire attaquant est une icône, mais surtout un modèle pour les joueuses qui s'en inspirent. Il y a l'institution Ajax Amsterdam et la sélection nationale chez les garçons. Il y a maintenant l'équipe féminine qui va dimanche se mesurer à son modèle, les redoutables américaines. Le fossé reste énorme avec les États-Unis beaucoup plus expérimentés. Et c'est donc un nouvel exploit que l'équipe orange devra réaliser. Lyon, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Ouais, les États-Unis, Pays-Bas, finale de la Coupe du Monde, donc demain à 17h.
Alors on continue avec le football, mais on s'intéresse à une saga qui fait ma joie, les transferts.
Ah oui, ça c'est une spéciale dédicace, le feuilleton Neymar. Suite, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, sait que le Brésilien veut partir. Il le dit publiquement pour la première fois, mais pour l'instant, il dément avoir entamé les négociations pour faire revenir la star en Espagne. Après Neymar, c'est au tour de Paul Pogba d'avoir le mal du pays. Oui, mais lequel? Tout dépendra de l'offre, explique son agent Mino Raiola. Ce sera le Real Madrid ou la Juventus.
Christophe, le reste de l'actu sportive, en bref.
Avec un mot de tennis, ça n'est pas passé pour Joe Wilfried Tsonga, battu sévèrement en 3 manches par Rafael Nadal. 6-2, 6-3, 6-2. Et côté féminin, qualification de la numéro 1 mondiale. Ashley Barty, de Serena Williams et de Johanna Konta qui bat Sloane Stephens. Et ça, c'est la surprise parce que l'américaine, 9e joueuse mondiale, était plutôt favorite. Voilà pour le sport.
C'était le journal des sports. Merci beaucoup Christophe Lamarre. À tout à l'heure. À suivre, 74 femmes ont été tuées depuis le début de l'année par leur conjoint. Comment enrayer ce sinistre et dramatique compteur qui s'emballe et que nous regardons, il faut le dire, avec impuissance? 150 sénateurs et sénatrices interpellent le gouvernement dans une tribune choc. L'une des signataires, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Esther Benbassa, est avec nous dans un instant.
Jusqu'à 19h, nous sommes avec Philippe Vandel, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Et maintenant à 18h18, Philippe, on va parler d'un sujet grave.
Effectivement, ces morts auraient-elles pu être évitées? Cette nuit à Perpignan, une femme de 32 ans a été tuée à coups de couteau par son compagnon devant ses 3 enfants. Dans la nuit de mercredi à jeudi à Tille en Haute-Marne, un homme a volontairement percuté avec son 4x4 son épouse et l'a tuée. Et mercredi, Leïla, une jeune femme de 20 ans enceinte, a succombé sous les coups de son conjoint à Saint-Denis en banlieue parisienne. 3 en 3 jours, j'arrête ici la liste. Nous en sommes, hélas, à 74 femmes tuées depuis le début de l'année. Bonsoir Esther Benbassa.
Bonsoir.
Vous êtes sénatrice, membre d'Europe Écologie Les Verts. Avec 150 sénateurs et sénatrices, vous co-signez une tribune dans Libé au titre volontairement provocateur, féminicide, où en est la grande cause du quinquennat? Ça fait référence à un terme qui avait été utilisé par le candidat Macron en référence à l'égalité homme-femme. L'exécutif, l'État, la secrétaire d'État Marlène Schiappa n'en font pas assez?
Non, je crois que si c'était des hommes, on aurait agi plus vite. Mais bon, ce sont des femmes, donc on laisse un peu passer les choses.
Vous le pensez vraiment ou vous dites ça par provocation?
Oh, je veux stimuler vos auditeurs à réfléchir, auditeurs et auditrices, à réfléchir davantage. Parce que d'abord, il faut dire qu'il faut une révolution copernicienne de l'égalité homme-femme. C'est primordial.
Alors, la révolution que vous appelez de vos voeux serait-elle en marche? Il y a une grande semaine de mobilisation. En ce moment, aujourd'hui, se tient à Paris, on l'a dit dans le journal de Sophie Tussaud, un rassemblement à l'appel d'un collectif de familles de victimes, avec notamment Muriel Robin. Il y a un appel dans le Parisien le 29 juin. Mercredi, la comédienne Eva Darlan a lancé une pétition. Elle dénonçait la non-assistance de femmes en danger. Jeudi, un collectif féministe a appelé dans le journal Le Monde 5 mesures immédiates pour lutter contre les féminicides. Je vous dis où je veux en venir. On a l'impression que le problème revient mois après mois et que quasiment rien de concret n'arrive. Qu'est-ce qui manque, selon vous, Esther Benbassa? L'argent ou une volonté politique?
il manque une volonté politique, puisqu'on a un arsenal juridique qui est peu ou mal utilisé, n'est-ce pas ? Par exemple, le téléphone grave danger où on peut appuyer sur un bouton et être basculé dans un système qui va venir à l'aide de la personne. Bon, nous en avons que 3 000. En Espagne, ils sont déjà à 10 000. C'est la même chose avec le bracelet électronique d'éloignement. Ouais. Il n'y en a pas assez. Madame Belloubet, notre ministre de la Justice, a promis davantage de bracelets, mais ça n'arrive pas. On attend les bracelets. Puis les Espagnols ont fait une loi globale en formant en même temps les magistrats aux violences faites aux femmes. Donc, il y a plus d'écoute et on a fait quand même baisser quasiment de 50% en 10 ans le nombre de victimes.
Puisque vous parlez...
Et puis, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.
L'argent, on connaît le problème, c'est un problème récurrent, quel que soit le thème auquel on s'intéresse en France, on manque d'argent. En revanche, ce qui me passionne dans ce que vous dites, c'est l'écoute. En Corse, je raconte cette histoire, au printemps, une femme de 35 ans, mère de 2 enfants, elle s'appelait Julie Douib, a été tuée par son ex alors qu'elle avait déposé 5 plaintes contre lui. Idem pour Gulsine, pardon si j'écorche son nom, c'est une jeune femme d'origine turque, qui avait été menacée par son ex-mari, jusque dans la rue devant des témoins. Elle avait déposé 5 plaintes contre lui. Elle allait plusieurs fois par semaine à la police. Elle avait même écrit au procureur, qui a refusé, le procureur, de la recevoir. Et là, on se dit, mais comment est-ce possible ?
Oui, mais parce qu'il faut former aussi bien la police que les magistrats aux violences faites aux femmes.
Mais c'est une question de bon sens. Moi, il me semble que si une femme vient 5 fois dans mon commissariat à supposer que je sois policier pour se plaindre, je l'écoute.
Oui, mais c'est la même chose pour le viol. Vous savez, ce sont les femmes qui sont violées majoritairement. Et lorsqu'elles s'adressent à un commissariat, parfois c'est l'ironie qui règne au lieu de l'efficacité. Donc, vous voyez, les femmes victimes, ça laisse quand même le personnel qui les rencontre, que ce soit les policiers, les juges ou à l'hôpital. Je parle aussi du viol, n'est-ce pas ? Il faut former ces gens-là. Enfin, ça, il faut de l'argent pour ça. Nous avons besoin de 506 millions d'euros. Nous avons actuellement que 79 millions qui sont consacrés à cette cause. Il faut dire à Madame Schiappa de bouger. Il faut qu'elle bouge parce que les pétitions et les manifestations ne sont pas suffisantes. On veut des actes. Les femmes, on veut des actes.
Comme disait Paul Vaslavic, les faits comptent plus que les mots. Vous souhaitez qu'il y ait des magistrats, des policiers, des gendarmes spécialisés. Qu'est-ce que cela changerait concrètement s'il y avait une brigade spécialisée, comme il y a une brigade financière pour les affaires financières ?
Oui, mais il y aurait une écoute. Une meilleure écoute. Parce que nous, les femmes, le problème, c'est que nous souffrons du patriarcat. Le patriarcat règne à la maison, dans le couple. Quand vous vous adressez à la police, vous êtes une femme, on regarde comme ça en se disant « oui, bon, ça va lui passer », etc.
Il y a parfois des femmes dans les commissariats.
Oui, mais enfin, elles ne sont pas encore nombreuses. Et il faut former les femmes aussi, monsieur. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est plus sensible aux autres femmes. Cela s'apprend aussi, n'est-ce pas ? Donc, révolution copernicienne pour l'égalité des femmes. Et en attendant la révolution, le Grenelle des violences faites aux femmes.
Je vais citer Youssef Bader, j'espère que je prononce bien son nom. Il est porte-parole du ministère de la Justice. Il a reconnu, c'était sur BFM TV il y a quelques jours, un vide juridique concernant les personnes gardées à vue et remises en liberté sous contrôle judiciaire. Il a assuré que le ministère était en train de finaliser un texte pour combler ce vide. Comment se fait-il que l'on découvre cela seulement maintenant, selon vous ?
Oui, enfin, c'est une constante dans l'histoire des femmes. On est tout le temps en retard, même au niveau de la parole, du respect, de l'égalité au Parlement, enfin, dans les conseils d'administration. Enfin, c'est une histoire à plusieurs étapes et il faut qu'on aille de l'avant. Là, il y a violence, là, il y a mort, là, il y a aussi traumatisme, des enfants qui voient leur père frapper leur mère. Et puis, c'est un ensemble, n'est-ce pas ? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se font frapper par des femmes, ni violer par des femmes. Et nous sommes vraiment dans cette inégalité. Nous sommes des objets encore dans l'imaginaire des hommes. Bah, pas de tous les hommes, mais
Justement, je veux dire un mot, parce qu'il y a une polémique là-dessus sur Twitter en disant que les hommes aussi étaient victimes. J'ai regardé les chiffres, il y en a, mais c'est très minoritaire. Un point de droit au nom de l'égalité devant la loi française ne reconnaît pas le terme de féminicide qui est dans votre pétition. Pourquoi vous le revendiquez ?
Et parce qu'il est parlant, n'est-ce pas ? Il y a à l'intérieur tuer. Hein, tuer les femmes, féminicide.
Vous savez que le.
Comme homicide.
Oui, mais les termes parricide et infanticide ont disparu du code pénal en 1994, justement.
C'est bien dommage.
Vous le regrettez.
Je le regrette.
Un mot, je suis content que vous soyez ici avec nous parce que je vous dirai un mot de l'affaire Benalla. Vous aviez fait partie de la commission d'enquête au Sénat, commission qui avait été très active, qui avait relevé les très nombreux mensonges de l'ex-garde du corps du président Macron, mais aussi l'entourage du président de la République. Et Le Monde vient de révéler qu'en 2016, interrogé par la police dans une affaire de violence conjugale, coïncidence, Alexandre Benalla, ça vous fait sourire, avait brandi une fausse carte de police et prétendu à tort être le chauffeur du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Oh, je l'ai entendu deux fois. Bon, il se débrouille bien. Il est malin, un peu menteur. Ce qui m'étonne, c'est comment l'Élysée a pu le recruter et n'a pas eu assez de sagesse pour voir qui était le personnage. Et après, on a continué à le protéger et à le défendre. Écoutez, hein, il faut un peu secouer l'Élysée, hein, parce qu'il y a du ménage à faire.
Merci beaucoup Esther Benbassa. Je rappelle que vous êtes sénatrice, membre d'Europe Écologie Les Verts, et avec 150 sénateurs et sénatrices, vous avez signé une tribune dans Libération, féminicide, où en est la grande cause du quinquennat, titre évidemment ironique. À suivre, une loi pour mettre fin aux insultes et au harcèlement en ligne. C'est l'ambition du texte qui a été débattu cette semaine à l'Assemblée nationale. La majorité veut en finir avec la haine sur les réseaux sociaux. Réponse des principaux concernés, Facebook, Twitter ou encore Google France, sont tous regroupés dans une association, la ZIC, et son président est avec nous dans un instant, et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
Dans une grosse minute, il sera 18h30, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Philippe Vandel.
Et c'est l'heure du rappel des titres avec Sophie Tousseau. Rebonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Un Grenelle des violences réclamé pour lutter contre les féminicides et les violences faites aux femmes. C'est la principale revendication du rassemblement de cet après-midi, place de la République à Paris. Depuis le début de l'année, 74 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Des bouchons et des ralentissements, beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui, notamment en direction du sud. Demain, ça risque de coincer également en Bourgogne, dans le Grand Est et en Auvergne-Rhône-Alpes, du monde également dans les gares. La SNCF attend 1,5 million de voyageurs ce week-end. C'est le séisme le plus violent depuis 20 ans en Californie ce matin, d'une magnitude de 7,1. C'est le deuxième tremblement de terre en deux jours. L'état d'urgence a été décrété dans le sud de la Californie. Les secousses ont été ressenties jusqu'à Los Angeles et Las Vegas. Un navire humanitaire défie Matteo Salvini et sa décision de fermer les ports italiens aux bateaux des ONG. L'Alex, qui transporte 41 migrants, vient d'accoster de force à Lampedusa. Une action une semaine après que le Sea-Watch a forcé les eaux territoriales italiennes pour débarquer 40 candidats à l'exil en Italie.
Merci beaucoup Sophie pour ce rappel. Votre journal complet à tout à l'heure, 19h.
Europe 1.
La météo, maintenant avec vous Valérie Darmon dans ce studio. On revient donc avec vous sur ces départements en alerte orange. Ça va du Tarn à l'Alsace.
Absolument, 23 départements, tout jusqu'à demain 9h. Ça va tonner sur une grosse moitié est de la France. Après l'accalmie de la mi-journée, l'atmosphère redevient très lourde avec 32 degrés à Lyon, d'où la reprise des orages ponctuellement violents sur l'est et le centre du pays ce soir et cette nuit. Il continue aussi à faire très chaud sur les régions les plus méridionales avec 36 à 38 encore relevés dans l'arrière-pays languedocien ainsi qu'en basse vallée du Rhône. Demain, vous retrouvez un temps frais sur les régions voisines de la Manche avec quelques rares averses. Si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne, les orages vont persister aussi encore un peu en matinée. Près de la Méditerranée, vous restez à l'écart de la dégradation et sur toutes les autres régions, le temps qui est plus variable, partagé entre nombreux nuages dans le sud-ouest et davantage d'éclaircies du Val-de-Loire au Pays de la Loire. Voilà le programme.
Merci beaucoup pour ce programme, Valérie Darmon.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 18h31, Philippe Vandel. On va maintenant parler de quelque chose qui nous concerne tous, Internet.
L'Assemblée nationale a voté jeudi l'obligation pour les plateformes Internet de retirer en 24 heures les contenus haineux signalés par des utilisateurs. Mesure clé d'une proposition de loi La République en marche. L'article 1er du texte de Laetitia Avia prévoit le retrait ou le déréférencement des contenus manifestement illicites sous 24 heures, sous peine d'une condamnation à des amendes jusqu'à 1,25 million d'euros. Bonsoir Giuseppe De Martino.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'ASIC, l'Association des services Internet communautaires. Pour vous situer, vous êtes fondateur de Loopsider après avoir été DG de Dailymotion. Quelles entreprises dans l'ASIC ?
En gros, les grands acteurs communautaires, Facebook, Google, Twitter, etc.
Ou Airbnb. Avec deux autres associations, le Syntec Numérique qui représente 2000 entreprises du secteur et l'association Tech in France, vous publiez un communiqué commun dans lequel vous dénoncez un texte inefficace. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
En fait, ce texte est inefficace parce qu'il ne vise pas à véritablement lutter contre la haine en ligne. Il met simplement une responsabilité sur les plateformes d'agir rapidement et quelque part de retirer tout ce qui pourrait représenter un risque pour les utilisateurs, les internautes. Et donc, il met une responsabilité à la charge de ces plateformes. Donc, le risque, c'est que tout soit censuré pour ne pas être tenu responsable de la présence en ligne de contenu.
Alors concrètement, la loi va imposer aux entreprises du numérique de répondre dans les 24 heures, je l'ai dit, à des messages non voulus. Quels outils ont-elles pour les détecter ? En quoi est-ce un problème ? Est-ce qu'elles ont les moyens déjà à la base ?
Non, et ce qu'on reproche à ce texte, c'est de ne pas laisser, de pas donner des moyens aux juges, plutôt d'aller rechercher les auteurs des propos, de les condamner, de faire des exemples, ce qui, pour nous, limiterait sûrement les débordements en ligne. Est-ce que les plateformes ont les outils ? En tous les cas, les plateformes ne sont pas des juges. Les personnes qui travaillent sur ces plateformes n'ont aucune formation juridique, et tant mieux, elles ne sont pas censées dire le droit. Elles réagissent en bon père de famille, en bonne mère de famille, et donc, dès qu'il y a un contenu, ce qu'on appelle un contenu gris où il y a un doute, demain, quand cette loi sera promulguée, et on espère qu'elle subira d'ici là quelques retouches, demain, le risque, encore une fois, c'est qu'on supprime tout de peur devant un contenu gris, pas clair, de se voir responsabilisé.
Les Républicains, mais également des élus PC, PS et UDI sont justement d'accord pour sanctionner, mais que cela revienne à des juges et non pas à des algorithmes, les algorithmes des plateformes, pour décider de ce qui est licite ou illicite. Et même le géant Facebook est sur cette ligne, d'accord pour supprimer les contenus illicites, mais pas pour faire le gendarme. Donc vous dites, c'est à l'État de faire son travail. Que vous répond l'État quand vous leur dites ça, quand vous lui dites ça ?
L'État veut surtout montrer aujourd'hui qu'il agit, faire de la communication, montrer que la France est à la pointe du combat sur certains comportements, alors que pour nous, la solution vient vraiment d'une coopération internationale, aller chercher les auteurs quand ils ne sont pas en France à travers des accords entre les différents États, mais tout ça n'est absolument pas visé par ce texte de loi. Donc pour nous, c'est vraiment que de la communication, hein. c'est un coup montrer que le gouvernement occupe le terrain sur ce sujet assez, on va dire, démagogique, comment protéger nos chères têtes blondes en ligne.
Alors, puisque vous parlez des coupables, des gens qui se cachent, mercredi, la députée Laetitia Avia avait fait cette mise en garde à l'Assemblée nationale. Écoutez.
À vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Je vous remercie.
L'Assemblée était debout pour l'applaudir, pas vous ?
Non, parce qu'il n'y a jamais eu d'impunité. Il n'y a jamais eu d'impunité. Il y a des textes d'ores et déjà qui permettent d'identifier les auteurs des infractions. Il faut simplement donner des moyens.
Pour prendre un exemple, pardonnez-moi.
Bien sûr.
Pardonnez-moi, Giuseppe De Martino, pour prendre un exemple donné par Laetitia Avia, elle se faisait traiter sur Twitter de négresse et les tweets restaient. Et ce n'était pas en 24 heures, ça restait des jours, des semaines. Et les gens n'étaient pas condamnés et les tweets n'étaient pas retirés. Il y avait de fait de l'impunité.
Alors, c'est peut-être à Twitter de réagir plus rapidement, et je pense que depuis, ils ont mis en œuvre des moyens pour retirer plus rapidement. Mais est-ce que Madame Avia a obtenu une condamnation des personnes ayant porté ces propos ? Est-ce que Madame Avia a fait l'effort de demander leur condamnation ? Je ne suis pas sûr. Parce que ce n'est pas en retirant simplement les tweets, il faut aller à la racine du mal. Il faut demander la condamnation et obtenir la condamnation de ces personnes.
Dans le texte initial étaient visées les incitations à la haine, à la violence, à la discrimination, les injures à caractère raciste ou encore religieuse, mais des amendements ont été votés et la loi prévoit de bannir en plus des messages bannis, ceux faisant l'apologie du terrorisme ou comportant une atteinte à la dignité de la personne humaine, idem pour les contenus qui font état de harcèlement, proxénétisme ou pédopornographie. En quoi c'est pas bien de condamner le harcèlement ou l'apologie du terrorisme ?
Parce qu'en fait, il y a déjà des textes de loi qui visent ces comportements, il y a déjà la possibilité d'agir contre ceux qui ont de tels comportements en ligne. Or, en pratique, on se rend compte qu'il y a assez peu de condamnations, il y a assez peu d'actions. Pourtant, les juges ont théoriquement la possibilité de demander l'identification, hein, l'adresse IP des auteurs de propos. Les plateformes coopèrent avec les autorités répressives dans ce sens. Mais au final, on a très peu d'auteurs de propos condamnés. Et c'est ça qu'on reproche. On nous demande, nous, plateformes, de couper, de retirer, certes, on le fait déjà et on le fera peut-être encore plus rapidement, tant mieux, mais on ne va pas, encore une fois, au fond du problème, on n'agit pas pour supprimer ce type de comportement. Ce n'est pas simplement en agissant en justice, mais c'est aussi au niveau de l'école, faire de la pédagogie, rappeler qu'il n'y a pas d'impunité sur Internet.
Autre point de discorde, l'extension au moteur de recherche. J'ai pas bien compris, Google devrait dénoncer les recherches des internautes, ou alors est-ce que c'est le référencement des moteurs de recherche qui pose problème ?
Ce qu'on a compris, hein, c'est vraiment le référencement du moteur de recherche. C'est-à-dire, par exemple, Loopsider, nous avons fait une vidéo récemment sur une ferme de visons en France où les visons sont particulièrement maltraités. Ces images sont violentes, pourraient représenter quelque chose de dangereux pour des mineurs. Et n'importe qui, demain, pourrait demander à Google de déréférencer cette vidéo pour ne pas voir des enfants y accéder. Pourtant, on considère que c'est important, en guise de message, de montrer ce qui se passe dans certaines campagnes françaises. Et là, il y a vraiment, pour nous, une question de liberté publique, une question de liberté d'expression qui nous semble potentiellement bafouée si n'importe qui peut demander à n'importe quel titre ou presse. C'est très très large, hein, vous l'avez rappelé, les sujets qui peuvent être rappelés, qui peuvent être traités par Google. Et donc, on aurait un énorme problème, encore une fois, dans ce cas de figure.
La loi dans son ensemble va faire l'objet d'un vote solennel en première lecture mardi. D'ici là, est-ce que vous allez continuer les actions ?
Oui, tout à fait. On va continuer à se mobiliser. La loi ne permet pas aujourd'hui de changer les comportements. La loi permet simplement de supprimer des contenus. Il faut aller plus loin en donnant des moyens aux juges.
Merci beaucoup Giuseppe De Martino. Je rappelle que vous êtes président de l'ASIC, l'Association des services Internet communautaires.
Merci, à bientôt.
Europe 1.
À suivre, notre page média et notre invité, vous le connaissez, icône gay du PAF dans les années 90 et 2000. Il revient là où on ne l'attendait pas, en génie, dans Fort Boyard. Magloire est avec nous dans un instant.
Jusqu'à 19h, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Il est 18h40, c'est l'heure maintenant de notre page média avec vous, Philippe Bandel, et votre invité.
Bonsoir Magloire.
Bonsoir, très heureux, merci de me recevoir.
Je tenais à vous inviter, on vous a connu dans le Morning Live sur M6 avec Michael Youn, dans La Folle Route avec Vincent McDoom, oui. Ou encore dans des films comme Is No Good. On vous retrouve cette saison dans l'un des programmes phares de l'été, dites-le.
Oh, Fort Boyard.
Ça a démarré depuis deux samedis, ça marche très bien, vous connaissez les chiffres ou pas du tout ?
Oui, je me renseigne quand même et je sais que le week-end dernier, nous étions premiers partout. Voilà.
Ouais, 2,67 millions et surtout, c'est assez rare pour te signaler, sur France 2, vous étiez en tête chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, la fameuse ménagère, oui. 22,7% de part de marché. Donc, Magloire dans Fort Boyard, mais pas comme candidat, comme personnage, racontez, qui êtes-vous ?
Je suis Magique le génie, il était une fois le père Fourat qui se promène autour du fort, il tombe sur une lampe, il frotte, et de là sort Magique, et Magique décide de l'aider à conserver les clés.
Voilà. Il est comment ? Pour qui n'a pas vu, il est comment ?
Magique, il a beaucoup de bagues, il a beaucoup de bijoux, il adore ça, comme Magloire dans la vie, et Magique est un petit peu espiègle, bien sûr, et il fait passer l'épreuve du fakir qui est un petit peu piquante.
Alors aussi, vous n'avez pas dit, vous êtes multicolore. Les bagouses, elles sont multicolores.
De toutes les couleurs.
Ça peut allumer les yeux.
Le costume est magnifique.
Le costume, couleurs, ça peut tuer un caméléon avec toutes ces couleurs.
Effectivement, on fait concurrence. On peut faire concurrence.
Alors, il paraît que vous avez la phobie des serpents.
J'avais.
Vous ne l'avez plus ?
Non.
Vous l'avez dit à la production ?
Oui.
Et ils ont dit ?
J'avais pas dit que j'avais de la phobie des serpents, bien sûr. Et durant le tournage, je suis allé dans l'animalerie, un endroit assez extraordinaire. J'ai mis 2 jours pour vaincre cette phobie qui était idiote finalement parce que j'ai appris à apprivoiser ou à connaître ces fameux petits reptiles magnifiques.
Oui, mais ça dépend parce que ce n'est pas des serpents qui tuent, il n'y avait pas des crotales.
Non, mais bien sûr, évidemment, de toute façon, tout est fait dans la plus grande des sécurités. Mais quand même, il faut savoir vaincre ce genre de phobie que moi j'avais. Je me disais surtout pourvu que je ne tombe pas sur un serpent et manque de peau, dans ma cellule, il y a des serpents.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'émission et dans l'accueil, comment s'est passé le tournage ?
Ce qui m'a surpris, vous venez de le dire Philippe, c'est l'accueil. C'est une vraie petite famille, il y a des gens qui sont là depuis 29 ans, depuis 17 ans, depuis 20 ans. Donc tous les techniciens, les comédiens, etc., etc. se connaissent depuis très très longtemps. Il faut s'insérer dans cette famille, qui est une jolie et grande famille. Il faut savoir ne pas perdre de temps, être prêt quand on vous le demande. Et c'est l'organisation, c'est extraordinaire. C'est 150 personnes qui travaillent tous les jours. C'est une machine extraordinaire et très bien huilée.
Parce qu'il faut le dire, toute la saison est enregistrée en combien de temps ?
Toute la saison est enregistrée en 3 semaines. Moi, j'étais là qu'une semaine pour mes 5 émissions, mais je crois que c'est à peu près autour de 3 semaines. C'est vraiment à voir, c'est passionnant.
Vous avez dit au journal TV Mag, le dernier, le 29 juin, il y a 2 ans, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de revenir à la vie. Donc j'ai entrepris de faire un régime, j'ai pris quelques kilos, puis j'ai tout fait pour faire Fort Boyard. Oui. Quel rapport entre Fort Boyard et les régimes ?
Alors c'est assez curieux parce que Michel avec qui je travaille, Michel Lévy, me disait un jour, il y a très longtemps, quand on s'est dit, il faut quand même que je revienne. Et c'était un petit peu aussi d'ailleurs grâce à cette maison, j'étais venu un matin d'été. Et j'ai dit, bon, allez, on va revenir, j'ai eu des soucis, j'ai... Bon, perdu ma petite maman, etc., etc. J'étais un petit peu déboussolé et par Fort Boyard. Et on se le disait, ce serait bien de revenir avec cette émission que moi j'adore et qui est un challenge à faire. Et le challenge, c'était justement de perdre des kilos pour arriver à pouvoir le faire. Je l'ai fait et finalement, Alexis Alain Roche-Joubert et Guillaume Bramet m'en rappellent 2 ans plus tard pour faire Le Génie. Mais quel bonheur!
Alexis Alain Roche-Joubert, la productrice, je veux dire pourquoi je vous pose la question, parce que j'ai l'impression que c'est votre truc, les régimes. En 2010, vous aviez participé au tournage de Objectif 40 sur Énergie 12, c'est ça? Il fallait perdre 40 kilos, ça a duré 10 mois, vous les avez perdus?
Je les ai perdus, effectivement.
Mais j'ai lu aussi, vous aviez participé à une autre télé-réalité, à Plein Régime, dans laquelle vous aviez perdu 45 kilos.
Non, à Plein Régime, je ne l'ai pas fait. J'avais fait, mais... Non, mais regardez-moi bien, Philippe. Effectivement, les régimes, ça doit être mon truc, quand même, de temps en temps. Il faut quand même que je reprenne un peu les choses. Et donc, effectivement, pour reprendre le cours de ma vie, il fallait qu'au moins psychologiquement et physiquement, je perde ces kilos.
Je vous ai entendu dans une interview, il y a 1 an, ou alors je l'ai lu, et j'avais été très touché par ce que vous aviez dit, et c'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui.
Merci.
Vous dites avoir été victime de grossophobie.
Oui. Ben, je ne fais pas mystère de ma vie privée, je suis noir, enfin je pense que je peux cocher toutes les cases, toutes les discriminations possibles.
Quoi d'autre ?
Mais, je veux dire, on sait très bien que je ne vis pas avec une fille, par exemple, mais on sait très bien que je suis noir, on sait très bien que, bon, voilà, je suis un petit peu extravagant. Mais c'est jamais ça qui choque les gens ou qui... Non, ce qu'on retient, c'est que je suis gros. Et donc, dernièrement, dans une radio concurrente à la vôtre, mais néanmoins amie, un type à l'entrée, un type tout à fait responsable, me dit « Ben Magloire, t'as bouffé le chien ». Et pendant quelques secondes, j'ai pas pu répondre, je n'ai pas répondu. Et puis quelques jours après, je me suis dit « Non, ça suffit. On arrête ce genre de choses, on arrête ce genre de discrimination. Je n'ai pas bouffé le chien. » Voilà. Et donc, je parle pour plein de gens. Et d'ailleurs, je viens de tourner, pour la première fois, je viens de réaliser un court-métrage à Tarnos, près de Bayonne, avec des jeunes gens qui veulent eux aussi lutter contre les discriminations et lutter aussi contre la grossophobie.
Vous avez déclaré sur le site Comitide « Mon plus grand souci aujourd'hui n'est pas d'être noir, homo adopté, mais bien d'être gros, y compris vis-à-vis du corps médical ».
Oui.
Qu'est-ce que vous avez à dire aux médecins ?
Je parle surtout notamment pour les femmes, parce que c'est elles qui sont le plus discriminées, c'est elles qui ont le plus de soucis, notamment pour celles qui sont enceintes, où effectivement, moi j'ai un médecin qui s'étonne toujours que je n'ai pas de cholestérol, je vous raconte ma petite vie. Hein. Ah mais non, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Donc effectivement, le médecin qui devrait être celui, le confident, celui à qui on confie ses soucis, eh bien, n'aide pas les gens de forte corpulence, n'aide pas les gros.
Ah bon ?
Ils sont maltraités souvent. Franchement, j'ose le dire. Donc attention au corps médical, à vous médecins intelligents, faites attention à la façon dont vous recevez les gros et les grosses.
Je veux dire pourquoi ce sujet m'intéresse, parce que ça ne me concerne pas du tout.
Ah
je
bah
suis
oui.
tombé de ma chaise en vous lisant, ça se manifeste comment ? Moi je pensais qu'au contraire, s'il y avait quelqu'un auprès de qui on pouvait recueillir une écoute, non. Ce serait bien les médecins, racontez.
Les femmes en parlent très bien, les femmes en parlent plus mieux que les garçons, mais les femmes en parlent très bien, c'est-à-dire qu'une échographie devient une souffrance parce que l'échographe vous dit qu'on ne peut pas voir dans tout ce gras ce qui se passe, etc. etc. Moi j'ai des témoignages, j'ai des entretiens, je vois beaucoup de jeunes femmes, je pense à une dans le 18e arrondissement de Paris, son médecin là. Je pense que c'est du harcèlement psychologique, moral. Oui, ça arrive.
On parlait de grossophobie. Vous avez également créé la journée Grossophobie Stop à l'Hôtel de Ville.
Avec Hélène Bidard de la mairie de Paris.
Alors peut-être vous allez me dire que non. Là non plus, je ne suis pas concerné. Oui. Est-ce que, tel que vous le ressentez, l'homophobie recule en France depuis le temps que vous êtes à l'image ?
Les discriminations avancent. L'intolérance avance. On aimerait dire
l'intolérance avance dans quel sens ? Ça va mieux ou ça va moins bien ?
Ça va beaucoup moins bien. La parole se libère. Je pense que les réseaux sociaux font que des gens... les paroles se libèrent, oui, on se lâche. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a aujourd'hui, de toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, hein, de quelle qu'en soit la nature, je pense que les gens se lâchent et se croient absolument impunis derrière leur écran, le huis clos de leur petite chambre. Et derrière leur écran, je pense que les gens disent absolument n'importe quoi et il faut être très vigilant.
C'est vrai que vous avez été une fois victime d'homophobie alors que vous tourniez avec Vincent McDoum votre émission La Folle Route.
Absolument.
De par votre équipe, votre oui. équipe même, vos copains même.
Oui, oui, c'est arrivé. C'est arrivé.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Non, bah, alors, j'ai pas tellement envie de reparler de ça. Mais,
parce que,
mais oui, bah, c'est, oui, c'était une très méchante chose dite autour de Vincent. Le garçon n'a pas fait long feu, hein, parce que notre producteur, je peux les citer, Coé et Cécile de Minibus, ont fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà.
Est-ce que la télé fait avancer les choses, les mentalités ?
Oui, bien sûr, à valeur d'exemple. Les artistes, les journalistes comme vous, ont valeur d'exemple et font avancer les choses. C'est pour ça que je m'attache à essayer de travailler dans des programmes qui font vraiment avancer les choses et on ne tourne pas en rond.
C'est très étrange ce que vous dites, c'est contradictoire. Vous dites l'homophobie avance, oui. Or il y a de plus en plus d'homosexuels à la télévision oui. qui le revendiquent de plus en plus.
Oui.
Et j'ai l'impression, moi, que ça gêne de moins en moins de monde et c'est tant
je
mieux.
Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense qu'effectivement, même s'il y a de plus en plus de gens qui avouent leur sexualité, je pense qu'aujourd'hui, la discrimination avance et que justement, peut-être que parfois c'est mal fait. Je pense que le mariage pour tous, la façon dont ça a été présenté, a causé aussi beaucoup, en ce qui concerne l'homosexualité, a causé beaucoup, beaucoup de rancœur, de méprise.
Et de crispation. Merci beaucoup, Magloire. Je rappelle, pareil, qu'on peut vous voir dans Fort Boyard tous les samedis, c'est à 21h. C'est sur France 2. Merci d'avoir fait un détour par Europe 1.
Merci à vous, Philippe.
À suivre le replay télé d'Evaroc et puis c'est presque l'heure de l'apéro et donc de la planche apéro. Ce sera avec le chef Nicolas Fage du restaurant Le Château de Sully, c'est à Bayeux.
Notre page médias poursuit sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel et Evaroc. Hein, c'est l'heure du replay télé, il est 18h50.
Bonsoir Evaroc.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
C'est l'heure de notre dernière séance de rattrapage. Déjà, vous avez sélectionné trois programmes qui méritent d'être vus ou revus sur les sites internet des chaînes.
Oui, alors avec un programme très éclectique ce soir et il sera notamment question de... cannabis. Ah. Mais chut, on verra après.
Bon.
Je vous propose de débuter par un documentaire extrêmement fort intitulé Apnée. C'est un film très personnel. C'est l'histoire vraie de Baptiste. Il est journaliste de guerre. Il a une trentaine d'années. Et puis, depuis plusieurs années, il s'autodétruit, drogue et alcool, jusqu'au jour où des souvenirs d'enfance vont remonter à la surface. Souvenirs d'un viol commis par son maître nageur. La psy qui le suit va lui expliquer le mécanisme psychologique qui s'est mis en place.
Vous avez eu un stimulus qui vous a reprojeté dans le passé. En fait, c'est comme si le corps était... quelque part le garant du traumatisme que vous avez vécu. Donc votre corps a relivré cette mémoire-là à ce moment-là parce qu'il y a eu les conditions, si vous voulez, pour que ça se redéclenche.
Et oui, une psy qui témoigne, un visage découvert devant la caméra de Baptiste. C'est à travers ce documentaire, il essaye en fait de raconter son long cheminement pour sortir de ce cauchemar, retrouver l'homme qui lui a fait ça. Et il y a une scène, la scène des retrouvailles, qui est extrêmement forte et qui est extrêmement impressionnante. C'est une des réussites de ce documentaire, c'est d'établir en fait un caractère universel à partir d'un cas particulier en fait.
Mais il s'est laissé filmer le maître nageur, violeur.
Il ne savait pas. Alors là, c'est la seule scène qui est filmée en caméra cachée. Pour le reste, Baptiste se filme à longueur de journée, il ne s'épargne pas, c'est assez impressionnant, c'est vraiment extrêmement personnel, mais vous allez voir, on tire des leçons de cette expérience-là, ça s'appelle Apnée et c'est à revoir sur France.tv.
Ça s'appelle Apnée, alors maintenant on va aspirer, vous avez promis du cannabis.
Ah bah oui, et c'est la nouvelle production française pour la plateforme Netflix, ça s'appelle Family Business, ou les aventures de la famille Azan, menées par le père Gérard Darmon, qui veille depuis la mort de sa femme sur sa tribu et sur sa boucherie. Alors sauf que le commerce va très mal et que la famille est au bord de l'explosion. Et puis c'était sans compter son fils, Joseph, et son goût pour l'entrepreneuriat. Alors sa nouvelle idée est quelque peu... allez, limite.
Qu'est-ce qui se passe? Ça vous pouvez nous expliquer?
Le cannabis va être légalisé.
Bah oui, bien sûr, tout le monde sait que le cannabis va être légalisé un jour.
Non, tu crois que tu te rends pas compte? C'est pas un jour, c'est là. Le ministre de la Santé va légaliser tout le bordel.
Et si on se positionne, frère? C'est du pognon.
Mais si on se positionne tout de suite, mec, c'est très balèze. C'est très balèze.
Mais c'est ça ton idée géniale? C'est de devenir dealer?
Mais c'est pas dealer. Ça va être légal. Donc, putain, je l'ai l'idée, frère, pour la boucherie, c'est bon, je l'ai l'idée. Ok, vous êtes prêts? La boucherie Azan devient la bûcherie Azan. Oh, c'est une bonne idée quand même.
Joseph, que vous venez d'entendre, qui est le fils, est incarné par le génialissime Jonathan Cohen. Est-ce qu'il va arriver à convaincre donc son père, sa sœur, sa grand-mère, qui est interprétée par Liliane Rovert, vous savez qu'on avait vu dans 10%,
oui.
Est-ce qu'il va les convaincre de se lancer dans ce commerce? Eh bien, la réponse au bout de 6 épisodes, marquée par quelques rebondissements, et Enrico Macias, des comédiens qui sont parfaits pour une farce dont la fin laisse la possibilité d'une saison 2. Ce n'est pas pour me déplaire, je le reconnais, et c'est à voir sur Netflix.
Et la tradition, Eva, est-ce que vous finissez par de la musique?
Évidemment, pour la dernière, Philippe, évidemment. Et puis alors, vous allez voir quelle musique. Hein. Et un documentaire absolument remarquable, qui était diffusé hier soir sur Arte, que je vous conseille vivement. Ça s'appelle John et Yoko, documentaire construit à partir d'archives inédites. Nous sommes en 1969. John Lennon et Yoko Ono ont quitté Londres pour se réfugier dans une très grande propriété à la campagne. Un manoir, en quelque sorte. John Lennon a y installé un studio et il travaille à l'enregistrement d'un album. Mais vous allez voir, on va passer de la cuisine au jardin en traversant le studio, effectivement, mais aussi la chambre à coucher et même la salle de bain. Des images commentées par tous ceux qui sont passés par ce lieu magique où Yoko Ono s'imposait. Elle est omniprésente, elle est dans toutes les images. Le couple est quasi fusionnel. Et ensemble, ils font naître une des plus belles chansons sous les yeux de leur petit garçon, John Lennon.
Ils étaient très concentrés sur l'enregistrement d'Imagine. C'est pour ça que j'étais très souvent livré à moi-même. Pour un enfant, un studio, c'est sympa une minute. Mais ensuite, c'est la même chanson qui passe sans arrêt. Imagine all the people.
Lennon pensait qu'elle a été ratée, cette chanson, vous imaginez? C'est ce que vous allez aussi découvrir dans ce documentaire. Chanson documentaire à revoir sur arte.tv. Et c'est ça, avec ça que je vous quitte, Philippe. Ouais. Merci infiniment pour cette année. Je vous souhaite un excellent été.
Bah,
oui.
Vous savez quoi? Moi, je pensais que l'année serait ratée et pas du tout.
Vous pensiez qu'on allait rater l'année?
Mais non, c'est vous qui venez de le dire.
J'ai dit quoi? Que l'année était ratée?
Mais non, que John Lennon pensait que la chanson allait être ratée.
Ah non, la chanson, pas l'année.
Vous n'avez même pas fait attention à ce que
non,
vous disiez.
Non, j'ai pas fait attention à ce que j'ai dit. Vous voulez qu'on la refasse?
Pas du tout. C'est pour ça qu'on vous aime, Eva Rock. J'étais enchanté de cette année en votre
moi aussi.
Compagnie.
Merci beaucoup.
Dans votre grand journal du soir sur Europe 1, on parle saveur aussi le samedi. 18h56, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Place donc à la planche apéro. Et aujourd'hui, on irait bien du côté de la Normandie, Philippe Vandel.
Bonsoir Nicolas Fage.
Oui, bonsoir Philippe.
Vous êtes le chef du restaurant étoilé Une Étoile, le Château de Sully, c'est à Bayeux-Calvados, c'est bien ça?
C'est ça.
Ma question est simple, qu'est-ce que vous nous proposez pour votre planche apéro?
Bah, la planche apéro, on est en Normandie, hein. Bayeux c'est en Normandie, sur, au cœur des plages du département. Donc on va faire un produit normand, ce sera un espuma de camembert avec plein de produits normands que l'on va venir tremper dans cet espuma et parfumer de différentes choses.
Alors je vous arrête tout de suite, qu'est-ce qu'un espuma?
Alors un espuma c'est une mousse qu'on réalise dans un siphon.
Et on met les gens savent le faire chez eux ou est-ce qu'il faut aller spécifiquement chez vous ou est-ce qu'on peut le faire chez soi?
C'est tout à fait réalisable chez soi, c'est très très simple à faire.
Ah oui?
Je peux vous donner la recette.
En deux mots, la manière, sans même tout détailler, la manière.
La manière, ben, c'est qu'il faut faire fondre du camembert dans de la crème.
Ouais.
On rajoute des pommes de terre cuites dans ce mélange, on mixe le tout, on met dans un siphon, on met deux cartouches de gaz et après on a une belle mousse au camembert qui va se former. Et à partir de là, on va pouvoir venir tremper plein de petites choses dans cette mousse.
Délicieux. Je me trompe ou vous avez un petit accent qui n'est pas forcément du Calvados?
Oui, tout à fait, oui. Moi, je suis louvérien d'origine.
Ah, d'accord. Mais vous avez quand même récupéré les meilleures recettes de la Normandie.
Exactement. Ça fait 20 ans que je cuisine en Normandie maintenant, oui.
Et avec ça, vous buvez quoi alors? Ça vient d'où? Ça vient de Normandie? Ça va être du cidre? Ou ça va être un vin qui pique un peu d'Auvergne?
Non, ouais, on reste en Normandie avec des produits normands, il faut boire du local, du normand, donc ça sera un cidre brut.
Ouais.
Ou alors si les gens préfèrent quelque chose d'un petit peu plus sucré, on peut partir sur du pommeau.
Ouais.
Donc là, on est quand même sur un apéritif de 15-16 degrés, c'est relativement sucré, mais très très prononcé en pomme.
Dis donc,
l'apéro, c'est très bien.
Sans vouloir paraphraser les tontons flingueurs, 15-16 degrés, la pomme, il y en a.
Oui, il y en a, oui.
C'est beaucoup, non?
Non, c'est un apéritif qui se boit frais, donc ça passe tout seul, ça.
D'accord. Et un petit dessert ou pas? Ou après, vous passez au dîner?
Après l'apéritif qui s'éternise, on passe au dîner. Et puis après, ben, c'est pareil, on est en bord de mer, donc il y a des poissons qui regorgent dans la mer, autant en profiter, quoi.
D'accord, merci beaucoup Nicolas Fage. Je rappelle que vous êtes le chef du restaurant étoilé Une Étoile, le Château de Sully à Bayeux-Calvados. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci à vous.
Et j'oublie jamais de le dire, à consommer avec modération.
Europe 1. Europe 1.
Dans un instant, pas de modération, le journal de 19h avec Sophie Tussaud. Et puis juste après, vous retrouverez le Club Tour jusqu'à 20h en compagnie d'Axel May. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la dernière émission de la saison. Ce sera de 18 à 20h, cette fois demain. Bonne soirée Marlène, bonne soirée sur Europe 1.
Bonne soirée Philippe.
À plus.